Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes du Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires, il est 8h. Monsieur Dambouza a fait le bon choix pour vous informer. Bonjour donc à toutes et à tous et bienvenue à cette édition matinale. Qu'en est-il de l'application des mesures annoncées par le gouvernement il y a une semaine pour contrer la vie chère? Dans beaucoup de boutiques à Bamako, rien n'a changé. Certains produits, dont le sucre, se font même rares dans les marchés. Des véhicules maliens transportant des marchandises et de l'hydrocarbure bloqués sur le territoire ivoirien avant d'être libérés. Des spectacles d'artistes annulés à Abidjan. Des actions menées en protestation contre l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali. Des observateurs appellent la population à la retenue. Difficile de travailler dans le CS comme centre de santé communautaire de Fana en cette période hivernale. Et pour cause, le centre est régulièrement inondé après une centaine de quantités de pluie. Une situation que déplorent usagers et responsables sanitaires. À la présentation, Mariam Maïga, Gagné Kanté assure la technique. Une semaine après le Conseil des ministres extraordinaire sur la hausse des prix, le constat reste le même dans beaucoup de boutiques à Bamako. Les prix n'ont pas baissé et les mesures annoncées ne sont pas appliquées dans beaucoup de commerces. Certains produits commencent même à se faire rares sur le marché, déclarent certains commerçants. Souvent ce reportage de Mamadou Samasekou qui a fait le tour de certains marchés de la capitale.
Certains clients reconnaissent que le prix du kilogramme de sucre a baissé dans leur quartier. Mais nombreux sont les endroits où le sucre est vendu à 700 francs CFA le kilo ou même introuvable. Des consommateurs réclament toujours que le gouvernement fasse respecter les prix plafonds.
Ils disent qu'ils sont en train de contrôler, mais ce n'est pas partout. Je demande vraiment au gouvernement de prendre toujours leurs responsabilités par rapport à ces prix.
Là où je suis, à Bolibana, du sucre est vendu à 600 francs, plus de demi-kilo à 300 francs.
Sur les dérives de Bamako, c'est aussi la désolation. C'est les demi-grossistes et les détaillants. Ceci demande à l'État de surtout surveiller la situation des stocks de produits subventionnés.
Si tu veux acheter pour revendre, il n'y a pas de bénéfice. Que les autorités jouent leur rôle.
Nous vendons le sucre à 700 francs CFA le kilo parce que nous prenons le sac à 30 000 francs CFA. Le lait en poudre monte chaque jour. Le sac est cédé à 70 000 francs CFA.
C'est les importateurs, mais le gouvernement est complice. Tant que le prix ne diminue pas à leur niveau, nous qui achetons puis les vendre si on ne trouve pas à un prix moins cher. C'est les populations qui en souffrent en disant que c'est nous.
La DGCC et les importateurs bénéficiaires des subventions de l'État n'ont pas répondu à nos sollicitations. À cette cherté des produits alimentaires s'est ajoutée depuis quelques semaines celle du carburant. Le prix d'un litre d'essence coûte présentement jusqu'à 900 francs CFA. En certains endroits du pays, c'est entre 1000 francs et 2000 francs, affirment des usagers.
S'agissant toujours de la flambée des prix à Bafoulabé, le respect des prix plafonds fixés par l'État était au cœur d'une rencontre initiée par les autorités en collaboration avec la Direction générale du commerce et de la consommation et de la concurrence antenne de CAI. Les commerçants et la société civile, les forces de sécurité et les médias ont participé à la rencontre. L'objectif, comment faire respecter les mesures prises par le gouvernement? Sur place, Mamadou Bessilibé pour plus de détails.
Pour faire respecter ces prix plafonds, les participants ont convenu de sanctionner ceux qui ne respecteront pas ces mesures annoncées. Le président des commerçants détaillants a invité ses collègues à se conformer aux dites mesures. Abdoulaye Diarra.
Les sucres, le riz, la farine et l'huile, ces prix augmentent du jour au jour. Alors que le gouvernement s'est engagé volontairement à payer une bagatelle de 14 milliards pour pouvoir assombrir la souffrance des populations. Donc, mes chers collègues commerçants, je vous demande, à partir d'aujourd'hui, de veiller à l'application stricte de ces prix.
La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence demande à tous les commerçants d'exiger la facture pour faciliter la poursuite des spéculateurs. Fousseyni Kone, représentant de la Direction régionale du commerce et de la concurrence.
Nous lançons un appel sincère à tout le monde, à toute la population. Tous ceux qui vont constater un manquement à cet arrêté, les signaler aux autorités compétentes dont je suis le représentant. Donc, nous voulons que les prix soient respectés partout.
Le préfet du cercle rassure les consommateurs qu'une brigade de contrôle sera mise en place dans les 13 communes du cercle. De Bofloabe, Moussa Bessidibé pour Studio Tamani.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Autre titre de l'actualité, le président sénégalais Macky Sall a effectué ce lundi 15 août une visite de travail et d'amitié de quelques heures au Mali. C'est le premier déplacement du chef de l'État sénégalais depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta dans notre pays en août 2020. Le président en exercice de l'Union africaine s'est dit porteur d'un message d'amitié et de bon voisinage, un message de l'Afrique auprès du peuple malien. Cette visite du président en exercice de l'Union africaine intervient alors qu'une tension est née entre les autorités maliennes et ivoiriennes suite à l'arrestation de militaires ivoiriens par Bamako. Moussa Malé Sissoko.
Je porte auprès de mon jeune frère, le colonel Assimi Goïta, un message d'amitié et de solidarité du Sénégal et de l'Afrique. Ce sont les premiers mots du président sénégalais à sa descente d'avion. Arrivé à Bamako aux environs de 10 heures, Macky Sall a été accueilli à l'aéroport par le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Le président en exercice de l'Union africaine indique qu'il est venu échanger avec les autorités de transition malienne pour que le Mali reprenne sa place dans les concerts des nations. Car, dit-il, le Mali est un pays important, un pays pivot en Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais de Koulouba. Rien n'a filtré officiellement de leurs échanges. Mais certaines sources indiquent que les deux personnalités ont évoqué le dossier de 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Ceux-ci ont d'ailleurs été écrouillés par la justice malienne ce vendredi. Les présidents maliens et sénégalais ont, par ailleurs, animé une séance de travail qui s'est élargie aux autres membres des délégations. Cette visite de Macky Sall survient dans un contexte de gestion du système de rotation des contingents de la MINUSMA. L'Allemagne a annoncé la suspension de ses opérations militaires en soutien à cette mission onusienne.
Parlons à présent de cette tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette tension diplomatique entre les deux pays est-elle en train de s'éteindre à d'autres domaines des relations? Plus d'une centaine de véhicules maliens transportant des marchandises et de l'hydrocarbure ont été bloqués sur le territoire ivoirien. La décision venait de la présidence ivoirienne, affirme les transporteurs maliens qui étaient sur place. Au même moment, les concerts des artistes maliens à Abidjan ont été annulés. Des décisions prises selon les organisateurs suite à la menace d'une organisation de la société civile ivoirienne d'empêcher ce spectacle. Plus de détails avec Draman Maïga.
Le syndicat national des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux du Mali indique qu'il n'a pas été explicitement dit aux conducteurs qu'il s'agissait des actions en lien avec les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Selon le vice-président du syndicat Issiaka Diakité, les bonnes relations entre les fêtières de transport des deux pays ont permis un dénouement sans incident.
Lorsque les camions maliens ont été chargés au niveau des ports et des dépôts de carburant, arrivés au niveau de leur péage, il y a des gendarmes qui sont venus interpeller les camions. On nous a donné information comme quoi ça a été une décision présidentielle qui a décidé d'arrêter les véhicules maliens et matriculés maliens. Et il faut reconnaître qu'entre les chauffeurs, nous sommes solidaires entre nous.
Des concerts des artistes maliens ont été annulés ce week-end à Abidjan. À en croire les proches de ces artistes, ils ont jugé nécessaire d'annuler leurs activités pour éviter des tensions. Des analystes politiques conseillent aux sociétés civiles des deux pays d'éviter des actions ciblées pour maintenir les bonnes relations entre États frères. Dr Abdoul Sogodogo, politologue.
Il n'appartient pas aux populations ivoiriennes et maliennes de trouver eux-mêmes un dénouement pour ce dossier. Donc cela n'est pas constructif pour la paix dans la sous-région au vu des liens séculaires, historiques et de fraternité qui lient le peuple ivoirien et le peuple malien.
Rappelons que les 49 soldats arrêtés au Mali le 10 juillet dernier ont été finalement inculpés ce vendredi pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État.
Allons à Gao où le dernier détachement des forces françaises de l'opération Barkhane ont quitté la ville hier pour le Niger. L'information a été annoncée par l'état-major des armées françaises dans un communiqué. Cette annonce intervient au lendemain d'une manifestation organisée dans la ville de Gao contre la présence des soldats français. Les manifestants ont accusé les militaires français d'être des parrains des terroristes. Les détails avec Intala Akbilal.
L'état-major des armées françaises explique ce départ par la décision prise par le président Emmanuel Macron le 17 février dernier de réarticuler ses forces hors du Mali après 9 ans de présence. Selon les responsables de Barkhane, la profonde transformation de la force ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le territoire malien. Ils affirment que dans une logique de co-construction, les armées françaises continuent le combat contre le terrorisme au Sahel en coordination avec leurs partenaires. Ainsi, avec ce départ, c'est la fin de la présence des forces françaises sur le territoire malien. Barkhane avait déjà transféré à l'armée malienne ses emprises de Ménakaté, Sélid Kidal, Tombouctou et Gossi. A noter que ce départ est intervenu au lendemain d'un ultimatum de 72 heures lancé par des forces vives de la ville de Gao. Passé ce délai, celle-ci menaçait d'interdire la circulation à toutes les forces étrangères dans la ville de Gao et sur les axes routiers. Les manifestants accusent Barkhane d'être le parrain des terroristes au Mali. Ils ont par ailleurs demandé aux autorités maliennes de porter plainte contre les autorités françaises pour complicité dans l'attaque meurtrière de Tessit.
De Gao cap à présent sur Fana, avec près de 3600 consultations par an, le centre de santé communautaire de Fana est très sollicité. Même pendant l'hivernage, le CSCOM est confronté aux inondations. Une situation que déplorent usagers et responsables du centre. D'autant plus que c'est la période où les consultations pour des maladies comme le paludisme ou les infections respiratoires sont courantes. Le point avec Khalifa Goïta, notre envoyé spécial à Fana.
Au CSCOM central de Fana, les inondations sont la principale préoccupation des responsables en cette saison des pluies. Ils affirment que le travail devient impossible en cas de forte pluie. Docteur Moussa Doumbia, directeur technique du CSCOM central de Fana.
Deux cas d'inondation depuis le début de l'hivernage. Aucune salle d'ici n'a été épargnée. La hauteur de l'eau dans les salles pouvait aller de 40 à 50 cm de hauteur. Ça a entraîné quelques dégâts. Des documents ont été endommagés, des appareils et beaucoup d'autres matériels aussi. Ça peut impacter la qualité de notre travail. Et en plus de ça, les jours de l'inondation, on ne peut plus travailler.
C'est la même préoccupation chez les usagers du CESCOM. Venus pour la consultation prénatale, Fanta Diakité déplore l'état du centre lorsqu'il y a une certaine quantité de pluie. Elle se réjouit toutefois du travail du personnel du centre.
Pendant la pluie, ce n'est pas facile de passer, surtout pour nous les femmes enceintes. Si vraiment on pouvait trouver une solution à ces problèmes d'inondation pour le bon fonctionnement de l'hôpital.
Les responsables du CESCOM rassurent malgré tout que des mesures sont en cours pour résoudre ces problèmes d'inondation récurrents au CESCOM de Fana. De Fana, Khalifa Goïta pour Studio Tamani.
Ce 19 août, Studio Tamani aura 9 ans. À l'occasion, vous aurez une série de reportages sur Studio Tamani. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces hommes et femmes qui aident Studio Tamani à collecter des informations à travers le pays. C'est un réseau d'une quarantaine de correspondants. Ils contribuent à la production des journaux et émissions. Ces collaborateurs locaux sont les yeux et les oreilles de Studio Tamani. Juliette Koulibaly revient sur le rôle et l'importance de ces correspondants.
Le rédacteur en chef adjoint de Studio Tamani, chargé du réseau des correspondants, affirme que les correspondants contribuent à la qualité de l'information de Studio Tamani. Sekou Gadigo, rédacteur en chef adjoint de Studio Tamani.
Toutes les informations, que ce soit dans nos éditions, les réseaux sociaux, en tout cas toutes les informations qui proviennent de l'intérieur du pays, c'est grâce à ces correspondants qu'on a ces informations. Donc leur apport est très très important dans ce que Tamani fait aujourd'hui. Et je peux même dire que c'est grâce à eux que Tamani parvient, je pèse mes mots, à faire la différence avec les autres radios du pays aujourd'hui.
Les correspondants étant le relais entre Studio Tamani, la population à l'intérieur du pays et les autorités, ils affirment pouvoir recouper les informations malgré les défis de sécurité dans certaines localités.
Mes tâches en tant que correspondant de Studio Tamani à Koutiala, c'est de chercher, fouiller, et puis traiter l'information pour l'ensemble des auditeurs de Studio Tamani.
À Ménac, nous travaillons dans l'insécurité, mais on fait en sorte que toutes les informations qu'on envoie soient des informations qui sont importantes. Il faut faire un papier, il faut faire une brève, il faut faire un enrobé.
À mon petit, je traite des sujets sociaux. Je participe souvent à des débats organisés par les studios.
Toutefois, les défis liés à la protection des correspondants dans les zones en proie à l'insécurité et le renforcement de leur capacité reste à relever selon le chargé du réseau des correspondants.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était la présentation Mariam Maïga. Gani Kanté assure la mise en onde. Ne décrochez pas car tout à l'heure, vous aurez la version en bambara avec Aïssata Diarra. Dans un post sur les réseaux sociaux, Mme Samake Maria Koulibaly relate le drame qu'a vécu sa sœur qui a perdu son enfant le dimanche dernier dans une structure sanitaire publique. Une perte causée selon elle à cause de négligence de certains agents de santé. Des situations de ce genre sont fréquemment dénoncées par la population. Celle-ci reproche à certains personnels de santé des mauvais comportements. L'Ordre des médecins déplore le mauvais accueil réservé dans certaines structures de santé. Il demande en revanche l'indulgence des usagers vis-à-vis des personnels de santé qui sont parfois débordés. Docteur Al-Kadri Diarra, vice-président de l'Ordre des médecins, répond aux questions de Lale Tangara.
De façon générale, les gens se plaignent. Mais en tant que praticien, c'est qu'il est facile d'accuser l'autre. Mais je crois qu'il y a des devoirs, des obligations qui sont aussi demandées à ces clients-là. Le premier contact, c'est l'accueil. L'accueil d'un patient, c'est très important. Mais le plus souvent, nos structures sont dotées des indications. Soit il y a un service d'accueil, les gens, au lieu de s'adresser au service d'accueil, non. Ils prennent d'autres voies, ne connaissant pas l'organisation de l'établissement. Donc, l'agent peut être surpris de voir X à ce poste-là, tel moment, parce qu'en te voyant à ce poste, ça sous-entend que vous avez une certaine compréhension, vous avez l'habitude de venir. Il y a un travail à faire à tous les niveaux et au niveau des agents de santé de façon générale, d'être patient envers ces patients-là, d'avoir la patience de les comprendre et d'utiliser les termes appropriés, mais aussi aux usagers de fournir des efforts de compréhension. Malheureusement, ce qui se passe chez nous, c'est que les établissements sont débordés. Imaginez qu'un seul médecin, tu te trouves avec 40-60 patients par jour. Les accompagner, les conseiller, ce n'est pas possible.
Face à ces comportements jugés par la population mauvais, qu'est-ce que l'Ordre des médecins dit?
Alors, c'est une organisation professionnelle qui régule la profession médicale et tranche les litiges entre médecins et usagers, la personne peut porter plainte à l'ordre, c'est son droit, parce que l'ordre fait des sanctions disciplinaires contre un médecin. S'il se trouve que le médecin a fait la faute, il y a 4 sanctions qui sont prévues dans les dispositions de l'ordre. L'ordre peut simplement avertir, l'ordre peut blâmer la personne, par exemple la personne ne peut pas être élue, l'ordre peut interdire la personne d'exercer de façon temporaire ou l'ordre peut radier quelqu'un définitivement de son tableau.
Alors comment combattre ces attitudes?
Ces attitudes passent par ce qu'on appelle les CCC, communication pour le changement de comportement. Chez nous, tout n'est pas rose. L'agent de santé, c'est vrai que tu peux avoir des problèmes, mais bon, c'est une profession que nous avons choisie et il y a des règles qui s'applique à nous. Le grand problème à notre niveau, c'est l'effectif. Il y a très peu d'agents de santé, surtout qualifiés, pour un nombre important de patients. La population souffre, mais l'agent de santé qui aussi a affaire est face à une difficulté qui ne dépend pas de lui. C'est aussi les autorités compétentes qui doivent aussi augmenter la capacité des hôpitaux, recruter plus d'agents.